Cours de théologie mystique. Père Philippe, Saint-Joseph, le 8 novembre.
La dernière fois, je vous montrais l'importance de ce chapitre 12 en Saint-Jean, l'aspect tragique d'opposition entre, d'une part, le geste de Marie, la sœur de Lazare, et l'attitude de Judas. Et Jésus, qui est obligé d'intervenir pour montrer que le geste de Marie est juste, qu'il est vrai. Alors, je soulignais combien cette attitude de Judas a dû blesser au plus intime le cœur de Jésus, son amour pour les pauvres, l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. C'est bien là où nous découvrons l'amour de Jésus pour les pauvres. Il porte l'iniquité du monde. Il porte l'iniquité du monde pour sauver le monde. Or, au moment même où Jésus va prendre la place du pauvre, on le critique comme usurpant un bien qu'on aurait pu donner aux pauvres pour les soulager. Alors, je vous disais également, et c'est important pour nous, de comprendre aussi comment dans l'Église d'aujourd'hui, nous retrouvons des problèmes semblables. Comment, au nom de certaines idéologies, on peut faire cette opposition entre l'Église et les pauvres. Il est évident qu'il y aura toujours des hommes d'Église qui seront très loin des pauvres. Mais l'Église, dans son mystère propre, en tant qu'elle est conduite par l'Esprit Saint, en tant qu'il y a en elle des saints, aura toujours ce souci des pauvres. Vous voyez, Mère Teresa, par exemple, c'est très significatif. Évidemment, ce n'est pas avec les mêmes procédés que certaines idéologies. C'est autrement. Mais dire que l'Église ne peut plus rien pour les pauvres, c'est sans doute regarder le problème de la pauvreté uniquement dans une perspective et ne pas regarder le problème de la pauvreté humaine dans ce qu'elle a de plus profond. La pauvreté humaine dans ce qu'elle a de plus profond, c'est que l'homme se matérialise. C'est que l'homme n'a plus le sens de l'amour, l'homme ne sait plus aimer. C'est vraiment ça le point de vue le plus terrible. Le point de vue temporel est évidemment une chose aussi terrible, et la famine demeurera toujours quelque chose de terrible, mais il y a quelque chose d'encore plus terrible, c'est la famine spirituelle. Et c'est d'être téléguidé par des idéologies qui vous matérialisent. On voit très bien la réponse que Jésus pourrait nous donner en face de ceux qui disent « Je quitte l'Église parce que l'Église ne peut plus rien pour les pauvres et que je me mets du côté des pauvres. » Certains, avec une très grande générosité, ont dit ça et continuent de le dire, en considérant que seuls certaines idéologies d'aujourd'hui peuvent répondre. Alors je crois qu'il faut que nous découvrions dans la lumière de ce chapitre 12, à la lumière de la parole de Jésus, comprendre ce que nous devons saisir dans ces oppositions, ce que nous devons répondre. Comment il faut toujours comprendre que l'Église est liée au mystère de la pauvreté du Christ. L'Église est liée à la pauvreté du Christ. Et l'Église est essentiellement pauvre, comme le Christ. Autrement, elle ne serait plus l'Église. Et c'est pour ça que l'Église demandera toujours à certains de donner le témoignage d'une pauvreté visible. Et le grand mystère, c'est la pauvreté invisible. Et le mystère de la foi et de l'espérance nous maintiennent dans cette pauvreté. La foi, c'est une pauvreté de l'intelligence. Et l'espérance est une pauvreté de nos désirs. La foule nombreuse des Juifs connut donc que Jésus était là. Et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Et les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Jean souligne la décision des grands prêtres, et cette décision des grands prêtres montre bien que les grands prêtres ne cherchent pas la vérité et qu'ils sont pris par un désir de garder leur autorité, un désir de puissance, on dirait, de domination. Et je crois que c'est pour ça que Saint Jean souligne ça. Parce que si c'était uniquement un souci de vérité, on pourrait dire Jésus est un faux prophète. Mais Lazare, ressuscité par lui, ne doit pas, à cause de ça, disparaître. Alors, on voit très bien que ça glisse de plus en plus vers une opposition qui est une opposition d'influence. Alors, décidant de tuer Lazare, ceci exige presque Jésus de se livrer. Puisque Jésus ne veut pas qu'un autre meure à sa place. Puisque Jésus ne veut pas qu'à cause de lui un autre meure. Or, si on a décidé de tuer Lazare, Jésus ne peut plus attendre. Et je crois que c'est cela aussi que Saint Jean veut nous souligner pour nous faire comprendre comment cette dernière semaine implique cette précipitation des événements. Le lendemain, alors, second moment, le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux de palmiers et sortit au-devant de lui. Ils poussèrent des cris. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et roi d'Israël. Trouvant un petit âne, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit, sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord, mais lorsque Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet, et que cela, on l'avait fait pour lui. La foule donc rendait témoignage, celle qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts. Voilà aussi pourquoi la foule était venue au-devant de lui. parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe. Les pharisiens se dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous n'y gagnez rien. Voilà que tout le monde est parti à sa suite. » Alors ça, c'est le second événement, l'entrée triomphale à Jérusalem. C'est beaucoup plus simple. C'est comme une espèce de grand mouvement de foule attirée par Jésus. C'est le dernier moment, j'allais dire, dans le peuple d'Israël, comme peuple d'Israël, comme peuple religieux d'Israël, c'est le dernier moment, le dernier cri de vérité vers Jésus. Cet appel vers Jésus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et roi d'Israël. Et Jean souligne le motif de cela, la résurrection de Lazare. Donc le signe. Alors mettez en parallèle avec le chapitre 6, je vous l'ai dit, il faut le mettre en parallèle. Puisque c'est les deux fois où on voit la royauté de Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a trois moments pour la royauté de Jésus. Chapitre 6, après la multiplication des pains, où Jésus s'enfuit, ici, et puis devant Pilate. Donc vous avez trois moments importants pour le mystère de la royauté de Jésus. Un premier moment où Jésus refuse, un second moment où Jésus répond, dans le silence. Et un troisième moment où Jésus explique. Vous avez trois moments pour la théologie de la royauté du Christ. Et la théologie de la royauté du Christ, vue dans la lumière même de son sacerdoce. On verra la grande théologie de la royauté du Christ quand Jésus est face à Pilate. Ici, j'allais dire que c'est la miséricorde de ce roi qu'on voit. La miséricorde et l'humilité. Il va au-devant de cette foule. Il sait très bien que cette foule, dans quelques jours, va crier « Crucifiez-le !» La même foule. Il le sait. Et malgré ça, il va au-devant. Parce qu'il y a un dernier cri d'appel qui est vrai. À partir du signe. Tandis que lorsque la foule, au chapitre 6, voulait proclamer Jésus roi, ce n'était pas à partir du signe, c'était parce qu'ils avaient mangé du pain tous leurs sous. C'est très différent. Alors là, on voit très bien que Jésus ne veut pas répondre, parce qu'il ne peut pas être complice de ce messianisme temporel dans ce qu'il a de plus bas. Avoir un roi pour être sûr d'avoir la nourriture tous les jours. Avoir un roi pour être dispensé de travailler. C'est un messianisme, le plus bas qu'il soit. Et Jésus refuse, là. Jésus n'est jamais complice de mauvais désirs. Jamais. Jésus n'est jamais complice d'un messianisme temporel. Jésus, ici, accepte ce cri d'appel. Parce qu'il sait que cette foule ne peut s'appuyer sur personne. Les autorités religieuses sont trop manœuvrées par la jalousie. Et quand on est passionné par la jalousie, on ne voit plus clair. Et donc cette foule est sans pasteur. Et c'est pour ça que le bon pasteur ne peut qu'aller au-devant de cette foule, devant son appel. Et donc Jésus reconnaît la vérité de cet appel, comme il a reconnu, si vous voulez, la vérité du geste de Marie, la sœur de Lazare. Jésus reconnaît la vérité de cet appel. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et roi d'Israël. Donc il reconnaît pleinement ce mystère de royauté. Mais il répond à sa manière. Il n'est pas roi d'une manière temporelle, il est roi des cœurs et des intelligences. Et parce qu'il est roi des cœurs et des intelligences, il veut qu'au point de vue humain, il apparaisse dans une très grande fragilité, dans une très grande pauvreté. « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur un petit ânesse. » C'est merveilleux de voir comment la royauté de Jésus veut se manifester dans cette pauvreté, dans cette petitesse. C'est un geste messianique que Jésus fait, que les apôtres n'ont pas pu comprendre sur le moment, et que les apôtres comprendront après. Et Jean lui-même ne l'a pas compris. Il l'a compris après la résurrection. Donc, seconde réponse de Jésus à l'appel de la foule. L'initiative vient de la foule, ce n'est pas Jésus. C'est une réponse. Alors, la troisième réponse, la plus importante, c'est celle faite aux Grecs. Alors remarquez bien ces trois réponses successives. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Et le priait en disant « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Le désir de ces Grecs, venant à Jérusalem pour la fête de Pâques, voulant adorer le vrai Dieu, la Grèce est dans un polythéisme, et au fond, Israël est le seul pays qui affirme ce monothéisme. Et ces Grecs sont attirés par cela. Il y a quelque chose de plus vrai. Ils sont attirés par le peuple d'Israël dans son acte d'adoration. C'est là où il est parfaitement vrai. Dans son acte d'adoration. Et cet acte d'adoration prend une splendeur, une grandeur particulière lorsque c'est la fête de Pâques. Alors on voit bien ces Grecs venant adorer l'unique vrai Dieu. Ils sont donc des âmes de bonne volonté. Et à Jérusalem, on parle nécessairement de Jésus. Le climat de Jérusalem devait être particulièrement tendu. Et on parlait de ce Jésus qui ressuscitait Lazare, de ce Jésus qui faisait tous ses gestes de miséricorde et en même temps rejetait des grands prêtres. Et alors la curiosité des Grecs, vouloir voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Ben, serions avec les Grecs, nous aurions dit la même chose. Voir Jésus, c'est pouvoir avoir un contact direct. Dépasser les opinions multiples et diverses. Vint Philippe et il le dit à André. Vint André ainsi que Philippe et ils le disent à Jésus. Oui, ce petit anecdote que saint Jean souligne est aussi très significatif. Philippe ne va pas déranger directement Jésus. Il vaut mieux qu'il soit deux. Ce qui prouve que jusqu'au bout, les apôtres ont eu cette révérence, ce respect vis-à-vis de Jésus. Ça, c'est très significatif, cette petite note, Et je dirais, plus la tension est grande, plus le respect vis-à-vis de Jésus augmente. Ça, c'est sûr. Mais on avait déjà vu ça. Alors, évidemment, c'est Philippe et André, comme au chapitre 6. On les retrouve l'ensemble le lien entre Philippe et André. Comme au chapitre 6, c'était le murmure en commun, ici c'est réaliser une demande, hein, la demande des Grecs. Il faut les réhabiliter, n'est-ce pas ? Il faut leur montrer leur contact avec Jésus. Jésus leur répond en disant, elle est venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Alors, tout de suite, la gravité de la réponse de Jésus. Elle est venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. L'heure de Jésus, c'est le mystère de la croix. Ça, tout l'évangile de Saint Jean ne cesse de le montrer. Et l'heure de la croix, c'est l'heure où est glorifié le Fils de l'homme. Et où le Fils de l'homme glorifie le Père. Donc toujours le mystère de la croix, présenté sous le point de vue de la gloire. Ou plus exactement, présenté sous une manière de glorifier le Père et lui-même d'être glorifié par sa passion. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime son âme la perd. Et qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Jésus annonce le mystère de la croix. Il l'annonce aux Grecs, à ces Grecs pleins de bonne volonté. Et pour l'annoncer aux Grecs, il se sert de cet exemple, de cette expérience, de cette analogie. Le grain de blé tombé en terre et la mort de ce grain de blé tombé en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. Donc, condition de la fécondité. Condition de la fécondité, condition nécessaire pour la fécondité du grain de blé. Il faut qu'il meure. Ce n'est pas suffisant de tomber en terre. Il faut qu'il accepte de mourir. C'est ça qui est impliqué dedans, dans cette analogie. La mort est liée à la fécondité. Il y a un lien entre la mort et la fécondité. C'est ça qu'il faut bien saisir. La mort n'est pas cause de la fécondité. Condition sine qua non. Il faut passer par là, par la porte étroite, pour la fécondité. Alors, pourquoi la mort est-elle condition sine qua non de la fécondité ? Jésus prend cet exemple. Il unit le plus petit des vivants au plus grand des vivants. Et le plus petit des vivants éclaire le grand vivant. C'est ça qui est étonnant. Et je dirais presque là, Jésus fonde toute la théologie. Se servir d'une expérience humaine, la plus commune, que ces Grecs connaissent bien, parce qu'ils sont attentifs aux lois de la nature. Ils ont le sens de ce que représente la nature. Jésus prend cet exemple pour éclairer, pour illustrer le mystère de sa mort. À première vue, on dira, il n'y a rien de commun. Et c'est vrai, à première vue, il n'y a rien de commun. Et donc, en disant ça, plutôt qu'expliquer, il confond. Parce que le grain de blé, c'est une nécessité vitale de mourir pour pouvoir porter du fruit. Jésus s'est librement. Et donc, à première vue, voyez, si on prend l'exemple selon une analogie de similitude, alors on tombe dans le panneau. Et Karl Barth a raison de dire, l'analogie c'est le diable, hein, on voit très bien. Parce qu'alors c'est ramener le supérieur à l'inférieur. Et ramener le supérieur à l'inférieur, par une raison de similitude, c'est quelque chose qui ne va plus du tout. Si au contraire, vous essayez de saisir sur quoi porte cette analogie et comment il y a quelque chose qui nous aide à entrer dans le mystère, alors on comprend pourquoi Jésus prend cet exemple. C'est le lien entre la mort et la fécondité. Condition sine qua non entre la mort et la fécondité. Mais évidemment, c'est tout à fait différent. Mais c'est là où porte l'analogie. Pas toujours, quand on est en face d'une analogie, vous savez bien, une comparaison. Alors, les comparaisons peuvent être plus ou moins fortes et plus ou moins profondes. Elles sont d'autant plus fortes que la diversité est grande. Et que, au-delà de cette diversité, il y a quelque chose qui demeure un. Mais il faut être très attentif à bien saisir cette diversité. Bon, la diversité, elle est très facile à comprendre. Hein. Le plus petit vivant, le grain de blé, est le plus grand des vivants. Et il y a quelque chose de commun. Et le quelque chose de commun, je crois qu'ici, nous devons le comprendre par le point de vue de la mort liée à la fécondité. Alors, la mort liée à la fécondité, pour le grain de blé, condition sine qua non. Parce que la mort va obliger le vivant, en quelque sorte, d'être réduit à rien. Il est brisé. Et c'est à partir de là qu'il y a une source nouvelle de vie et d'amour. C'est bien évident que ce n'est pas la mort qui est source, mais elle manifeste comment le vivant doit se dépasser pour être source de fécondité. Il n'est plus lui-même. Il doit être dépassé. Il se dépasse lui-même pour être source de fécondité. Et la mort manifeste cela, manifeste cette brisure de l'individu pour être source de fécondité au-delà de lui-même. Alors là, l'analogie porte. Jésus doit accepter la destruction de tout lui-même en tant qu'individu. Il l'accepte librement, alors que le grain de blé, c'est pour manifester cette loi de la fécondité. Jésus accepte librement cette destruction pour agir en instrument du Père. Et être source de fécondité comme instrument du Père. Et ne plus agir comme individu particulier, mais d'agir au nom d'une source de vie qui est le Père lui-même, qui est la très sainte Trinité. Vous voyez, comme l'individu s'efface devant l'espèce, Jésus s'efface devant la paternité et la volonté du Père. Alors là, on voit bien l'analogie. Et ceci fait comprendre comment la fécondité réclame tout le temps un amour qui n'est plus un amour égoïste et égocentriste, mais qui est un amour qui nous fait dépasser nous-mêmes. Pas de fécondité sans dépassement de soi, et donc sans mort de soi, sans mort de l'individu, autrement il n'y a pas de fécondité. Autrement dit, la fécondité est toujours attachée à une plénitude d'amour, un amour parfait. Un amour qui ne serait pas parfait, c'est tout simplement un amour qui ramène tout à nous-mêmes, un amour captatif, un amour égocentriste, un amour ne peut pas être fécond. C'est impossible qu'il soit fécond. La fécondité est attachée à un amour parfait, donc qui exige un dépassement. Et ce dépassement suprême, c'est accepter la mort. C'est là où le dépassement est parfait. Et donc, plus la fécondité doit aller loin, plus la mort est là pour manifester le mystère de la fécondité. Je crois ça très important, hein, parce que c'est une très grande lumière qui nous est donnée. On peut parler de la fécondité au niveau humain, et on peut parler de la fécondité au niveau divin. Et au niveau divin, c'est le lieu où il nous est donné de la manière la plus explicite. Alors vous voyez toutes les répercussions que peut prendre cette affirmation de Jésus sur tout mystère de fécondité au niveau divin. C'est quelque chose qui réclame la mort, donc la disparition de soi-même. C'est ce qu'on dira au point de vue spirituel quand on dira tout simplement que pour être un instrument de Dieu, il ne faut pas faire son œuvre. Tant qu'on fait son œuvre, il n'y a pas de fécondité, il y a l'efficacité. Mais il n'y a pas de fécondité, on fait quelque chose qui est à notre dimension. Pour pouvoir faire quelque chose qui n'est plus à notre dimension, il faut mourir à soi-même. Mourir à son projet, mourir à ses désirs, mourir à tout ce qui est nous. Et c'est dans cette lumière, c'est Jésus lui-même qui nous montre ça. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La condition, hein, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La condition sine qua non. Encore une fois, ce n'est pas la causalité. Mais c'est toujours la condition sine qua non qui manifeste le plus, hein, qui montre le mieux. Parce que c'est un argument négatif qui montre l'absolu. Si on disait il faut un amour parfait pour être fécond, on comprendrait beaucoup moins. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la fécondité. Et ceci reste parfaitement vrai dans le propre du mystère même de la fécondité. Qui aime alors l'application, qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc l'application que Jésus fait immédiatement dans l'ordre surnaturel et dans l'ordre chrétien, qui aime sa vie, c'est-à-dire celui qui tout simplement aime son âme et ne va pas plus loin et reste dans l'immanence du vivant. Vous voyez l'immanence, hein, la philosophie de l'immanence du vivant. C'est très bien ça. Et on voit très bien comment tout psychologisme demeure dans l'immanence du vivant. Et c'est aimer son âme. Si on demeure dans cette immanence du vivant, on détruit le vivant. Qui aime sa vie la perd. Qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Il faut ce dépassement. Il ne faut ne pas s'arrêter à soi. Celui qui s'arrête à lui-même, eh bien, celui-là n'aime pas vraiment. Et donc, l'amour se corrompt. Et donc, il perd son âme. Celui qui, au contraire, alors accepte ce dépassement, et accepter ce dépassement, c'est par le fait même accepter sa propre destruction, qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ça va très loin, ça évidemment, c'est la source de toute la spiritualité de l'imitation de Jésus-Christ, voyez, qu'on disait au réfectoire. C'est ça qui a été au cœur de toute la réflexion de toute spiritualité chrétienne. Toute spiritualité chrétienne doit regarder cela en comprenant qu'on ne peut avancer qu'en acceptant de mourir. Mourir à son intelligence, mourir à son affectivité, à sa sensibilité, à tous ses goûts, à tous ses projets. Alors c'est pas drôle, hein. C'est évident. C'est là où on peut dire que la vie chrétienne, elle est dure. Parce que c'est un dépassement et qu'on est tellement dans une philosophie de l'immanence. Comment comprendre ça dans une philosophie de l'immanence? On ne peut pas. Impossible. Ça devient violent, vous voyez. Alors, ce n'est plus un dépassement, ça devient violent. Alors, une philosophie de l'immanence, c'est une philosophie qui veut rester toujours au niveau psychologique. Et quand on reste à ce niveau-là, on ne peut pas expliquer ça. Alors on explique ça en disant, c'est très simple. Oui, c'est le langage araméen qui est brutal. Alors on met les choses comme ça, ça. On met les choses brutalement comme ça. Et comme c'est traduit en grec, les nuances n'existent pas dans l'évangile, vous voyez, parce qu'on est au-delà des nuances. Et Jésus ne connaît pas les nuances, parce qu'il parle à des gens qui ne sont pas nuancés. Il parle au grec quand même, n'est-ce pas ? À des gens qui ne connaissent pas les nuances, alors il dit brutalement les choses. C'est la seule façon. C'est comme quand on parle aux novices, alors on enfonce des clous, n'est-ce pas ? Alors il ne faut pas parler avec nuance. Non, c'est pas ça du tout. C'est un langage vrai. Et c'est un langage qui va très loin. C'est évident. Haïr son âme en ce monde, c'est accepter le dépassement et de ne pas demeurer dans l'immanence. C'est d'accepter que l'amour qu'on a pour soi demande d'être dépassé et que je n'ai pas le droit de m'arrêter à l'amour de moi. Que je n'ai pas le droit de m'arrêter à mon propre épanouissement. M'arrêter à mon propre épanouissement, m'arrêter à ce qu'on a appelé la psychologie, la spiritualité des arbres à vent, vous voyez bien, pas de taille, laisser tout pousser. Alors, s'arrêter à ça, ça va directement contre ce que dit notre Seigneur. Il le dit devant les Grecs, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. Il le dit devant ces êtres qui cherchent la vérité, qui sont venus là pour chercher la vérité. Il ne croit pas encore. Vous voyez la différence. Jésus devant Nicodème fait appel au geste de Moïse. Jésus devant les Grecs fait appel à l'expérience. Et se sert d'une analogie de l'expérience. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Bien évident. S'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il doit mourir pour pouvoir porter des fruits. Pour être source de fruits. S'il meurt, il peut être source de fruits. Il peut, hein, c'est condition sine qua non. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là sera aussi mon serviteur à moi. Alors, Jésus montre comment on peut se dépasser. Tout de suite. Comment le grain de blé peut mourir. Comment on peut haïr son âme en ce monde. Il n'y a qu'un seul moyen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Suivre l'agneau partout où il va. Vous voyez ? le grand leitmotiv dans l'évangile de Jean. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là sera aussi mon serviteur à moi. Jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Autrement, on ne suit pas vraiment. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors nous retrouvons là, grâce à ce service, suivre Jésus et le servir, on retrouve l'amour du Père. On retrouve le mystère de la filiation. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il doit y avoir maintenant là un moment de silence. Hein. Maintenant, mon âme est toute troublée. Face aux Grecs, mystère de l'agonie. Et ce mystère de l'agonie va être lié au mystère de la transfiguration. Les deux vont être présents. Vous savez bien que Jean ne nous rappelle pas dans son évangile le mystère de l'agonie, parce que je crois qu'il l'a communiqué à Luc. Et donc il ne le reprend pas. Nous le verrons, ça. Mais Jean montre que dans l'âme du Christ, chaque fois que Jésus est proche de son heure, Jésus entre en agonie. C'est pour ça que je crois que dès Cana, ça nous est manifesté. À la demande de la femme, à la demande de Marie, ils n'ont plus de vin. Jésus sait qu'il ne donnera le nouveau vin qu'à la croix. Et donc la demande de Marie précipite les événements et met l'âme du Christ face à la croix. Et Jésus entre par le fait même en agonie. Il vit le mystère de la croix dans l'agonie, ou en agonie si vous voulez. C'est une dimension essentielle du mystère de la croix, le mystère de l'agonie. Et parce que c'est une dimension essentielle du mystère de la croix, chaque fois que Jésus se trouve en présence du mystère de la croix, en présence de son heure, Jean souligne ça. Vous voyez, c'est dit d'une façon très très belle pour que nous comprenions une des dimensions profondes du cœur de Jésus. L'évangile de Jean, c'est de nous aider à entrer dans le cœur de Jésus. C'est de nous aider à pénétrer dans le cœur de Jésus. C'est la théologie du cœur de Jésus, l'évangile de Jean. Et puisque c'est la théologie du cœur de Jésus, il faut comprendre toutes les dimensions du cœur du Christ. Et une des dimensions fondamentales du cœur de Jésus, c'est l'agonie. C'est-à-dire la tristesse de l'agonie. C'est-à-dire le poids de l'agonie. C'est-à-dire que Jésus porte l'iniquité du monde en face du Père. Et qu'il sait qu'il est le seul responsable en face du Père de toute l'iniquité du monde. Et c'est pour ça qu'il y a au plus intime du cœur de Jésus cette dimension qui reste durant toute la vie apostolique de Jésus. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Vous voyez, c'est bien demander que le calice s'éloigne. Et en même temps, immédiatement, comme dans la prière de l'agonie dans Saint-Luc, Jésus se remet entièrement entre les mains du Père. Père, glorifie ton nom. Je suis venu à cette heure. Il est venu pour cela. Donc, le mystère du grain de blé qui doit mourir, Jésus le vit avec une telle intensité qu'au moment où il le dit, il le vit au plus intime de son cœur. C'est pour ça qu'il entre dans l'agonie. Il est celui qui vit ce mystère, c'est-à-dire que son âme est offerte au Père. Il a tout donné. Il vit dans cette attitude de celui qui n'a plus rien à lui, donc qui est mort à lui-même. La mort de la croix est vécue d'abord mystiquement, c'est bien évident. Et donc elle est vécue dans l'amour. Et elle est... Ce qui fait que toute sa vie terrestre est totalement offerte au Père. Pour glorifier le Père et pour nous sauver. C'est cette mort mystique, l'agonie. Hein. Mon âme est triste jusqu'à en mourir. C'est la mort mystique, intérieure, et une mort toute d'amour. C'est pour ça que nous pouvons vivre le mystère de l'agonie, nous pouvons anticiper notre mort par cette mort mystique, intérieure, qui fait que tout est offert. Et nous acceptons de mourir à nous-mêmes, à notre propre volonté, pour la fécondité voulue par le Christ de nos activités apostoliques et de toute notre vie, hein, même si nous n'avons pas de vie apostolique, toute notre vie chrétienne, elle est liée à celle de Jésus, elle est liée à celle de Marie. Et la fécondité de Marie, elle se réalise à la croix, où Marie vit le même mystère. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure, mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Donc l'intervention du Père, ce qu'il y a d'essentiel dans le mystère de la transfiguration, comme dans le mystère du baptême, c'est le Père qui se porte témoin. C'est le Père qui est témoin dans l'âme du Christ. C'est très très beau pour comprendre le silence du Père à la croix. Parce qu'ici, il n'y a pas le silence du Père. Et très souvent, nous comprenons très mal le silence du Père parce que nous oublions ça. Et c'est pour ça que Saint Jean nous le donne, vous comprenez bien. Il a dû entendre des commentaires sur « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dû savoir que de fait, on comprenait d'une façon toute extérieure, et pas du tout d'une façon divine. Et alors, Jean ayant vécu cela, il était là présent, il a vécu cette agonie, ce moment d'agonie. Il a vécu ce moment de la transfiguration qu'il avait déjà vécu, et qui lui est redonné ici, en liant l'agonie et la transfiguration. Alors, on va revenir là-dessus, parce que je crois que ça, c'est important pour nous, au point de vue théologique. La foule, donc, qui se tenait là, et avait entendu, on vit d'une expérience de façon très diverse. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a des herméneutiques différentes d'un même fait, suivant les dispositions de chacun. On ne peut interpréter une action divine que si on est capable de comprendre une action divine. Autrement, on l'interprète d'une manière humaine. Et si on l'interprète d'une manière humaine, on l'interprète toujours de façon toute partielle, sans comprendre, en étant à l'extérieur. La foule donc qui se tenait là et avait entendu, donc ils étaient témoins, disait que c'était un coup de tonnerre. L'explication la plus simple, quoiqu'elle est apocalyptique déjà, hein, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus répondit, alors, la véritable herméneutique. Je vous ai déjà dit, hein, la véritable herméneutique, selon le livre de Daniel, elle ne peut se faire que par quelqu'un qui est inspiré de l'Esprit-Saint. L'herméneutique de la parole de Dieu doit se faire par l'inspiration. Alors, vous allez me dire, ah, tous les théologiens ne sont pas inspirés du Saint-Esprit. Et cependant, ils sont des théologiens, ils doivent donner une herméneutique, c'est vrai. Mais ils doivent toujours s'en référer aux saints. Parce que c'est les saints qui, eux, sont mus par l'Esprit-Saint. Jésus répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix est advenue, mais pour vous. » C'est important ce que souligne Jésus ici. Ce miracle, cette action directe de l'Esprit-Saint et du Père, c'est pour nous, exactement comme pour la Transfiguration. Et Jésus explique, c'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Voyez l'herméneutique que donne Jésus. D'abord, il faut recevoir la parole du Père. C'est pour nous. Et ça reste toujours pour nous. Même si nous ne sommes pas des témoins au point de vue de l'expérience sensible, la parole de Dieu nous est donnée comme une parole qui nous est toujours donnée. Donc, nous devons saisir que cette parole du Père, elle nous est donnée à nous. Nous en avons besoin. Pour comprendre que le mystère de la croix, c'est un mystère de gloire. Si nous ne comprenons pas que le mystère de la croix est un mystère de gloire, nous n'entrons pas dans le mystère de la croix. Et nous restons loin. Donc c'est le Père qui vient rendre témoignage et c'est pour nous. Jésus montre que le mystère de la croix, qui est ce mystère de gloire, de glorification, c'est le jugement de ce monde. Alors là, il faut le regarder dans la lumière de l'Apocalypse ou mettre en parallèle les textes de l'Apocalypse. C'est le jugement de ce monde. Il y aura un jugement du monde qui arrivera au terme. Et la croix est déjà le jugement du monde. Donc, Jean met un parallélisme net entre ce qui termine la vie de Jésus et ce qui terminera la vie de l'Église et la vie de ce monde. Et nous devons donc comprendre ce parallélisme si nous voulons entrer dans ce mystère du jugement du monde. Ce discernement dans la vision de l'Apocalypse, c'est très net. Le jugement s'est montré à nu, s'est dévoilé ce qui est l'action du démon actuel dans le monde et l'action de l'Esprit-Saint actuel dans le monde. C'est pour ça qu'on doit aimer ce jugement. Quand nous voyons ouvertement toute l'action du démon dans le monde. Oui, si on pouvait voir ça, hein. Toute l'action du démon dans le monde. Le jugement, c'est Dieu qui, à un moment donné, dit « c'est suffisant ». Il faut quand même démasquer l'action du démon et dévoiler son action. Et que nous voyons ce qui vient du démon. Et l'œuvre du démon, c'est de former la Babylone. C'est de former la prostituée. C'est le langage de l'Apocalypse. C'est-à-dire celle qui adore les faux dieux. puisque c'est le langage de l'Apocalypse. Hein. Les prostituées, c'est le langage de l'Apocalypse, c'est-à-dire ceux qui sont contre, qui ne sont pas dans la fidélité, et qui, à la place d'adorer, adorent les idoles. Toute l'action du démon, c'est de nous faire adorer les idoles. C'est son plus grand désir, c'est son unique désir, hein. C'est que nous adorions les idoles. Et alors, démasquer l'action du démon, c'est de faire comprendre comment le démon est là, présent, tout proche de nous, pour essayer toujours de nous faire dévier. Le jugement de ce monde, c'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Donc, on le démasque, on montre ce qu'il est et on montre son activité propre. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Alors revenons à ce mystère de l'agonie et de la transfiguration. C'est un aspect très très joannique. Vous voyez, Jean ne parle ni de l'agonie, ni de la transfiguration, mais il en parle ici en les unissant. Il y a beaucoup de choses qui sont unies dans ce passage de Jésus, hein, et qui font comprendre que nous arrivons à quelque chose d'ultime, dernier, où il ne s'agit plus d'analyser, il s'agit de vivre. Et là, Jésus nous fait comprendre comment le mystère de l'agonie, qui est le mystère du poids du péché, qui est la grande kénose, l'anéantissement de l'âme de Jésus, pris jusqu'à la mort, c'est ce grand mystère de l'agonie qui met Jésus dans un état de si grande petitesse, de si grande pauvreté. C'est à ce moment-là où le Père est le plus proche. C'est à ce moment-là où le Père le glorifie. Si je juge selon les apparences, je dirais, c'est le moment où il est le plus abandonné. Si je juge en vérité, c'est le moment où le Père est le plus proche. Puisque c'est à ce moment-là que le Père le glorifie. Alors nous voyons comment les deux sont liés, hein, le mystère de pauvreté et le mystère de glorification. Le mystère de pauvreté radicale, où Jésus est rejeté, et le mystère de glorification qui vient du Père comme étant la victoire de l'amour. Et les hommes ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et Jésus, là, en donne l'explication lui-même.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.